Et la question, la première, vous avez vu que c'était assez naturel puisque la question, vous me l'avez posée vous-même, c'est depuis quand vous êtes sur Orléans?
Donc, je disais depuis une vingtaine d'années en fait. Avant cela, j'ai beaucoup déménagé, voilà, mais là c'est vraiment le point fixe.
D'accord. Donc une vingtaine d'années, ça nous ramène à
Ça nous ramène à
1990.
par là.
Hein,
Oui, tout
d'accord.
à fait, c'est ça.
D'accord. Et donc qu'est-ce qui vous a amené à venir sur Orléans, à vivre sur Orléans?
J'ai suivi mes parents, hein. J'étais
D'accord.
encore petite, je devais avoir 11 ans, 11
D'accord.
ans, voilà. Donc,
D'accord. Ils sont
ah,
venus sur
simplement,
Orléans et donc on va monter jusqu'aux parents, si vous voulez bien.
oui.
Donc ils étaient où avant d'être sur Orléans?
Alors, avant de venir à Orléans, nous avons vécu à Dunkerque.
D'accord.
Et puis avant cela, nous avons vécu en Algérie.
D'accord.
Et je suis née en Iran. Mes parents se sont rencontrés en Iran, en fait. Ma mère étant française et mon père iranien.
Ah,
Voilà.
d'accord. Donc, alors bah, du coup, là, on a vraiment un parcours assez exceptionnel, on va dire. Donc, ils se sont rencontrés en Iran, c'était dans quelle
Dans quel cadre?
ou dans quelle année déjà,
Oh
à
là
l'époque?
là, bah écoutez, je pense que ma sœur étant de 73, ils ont dû se rencontrer dans les début 70, quoi,
D'accord.
par là.
Et votre maman qui était en Iran.
Professeur de français en
D'accord.
Iran à la fac, voilà.
D'accord. Et donc, il s'est passé des choses, enfin, c'est par rapport aux événements en Iran qu'ils ont dû quitter le.
Oui, évidemment,
Ouais,
évidemment, parce
d'accord.
que je suis née personnellement pendant la Révolution, donc de 78, et mes parents ont essayé naturellement de partir d'Iran à ce moment-là, parce que ça devenait très difficile même d'enseigner finalement ce qu'ils voulaient, voilà.
Parce que votre père aussi était
Mon père était,
enseignant?
oui, professeur d'anglais.
D'accord. Dans le même
Dans le même
établissement?
dans
D'accord.
la même université, ouais, de Shiraz.
D'accord.
Et donc voilà, ils ont fait des démarches pour partir et ma mère a tout de suite une mutation pour l'Algérie. Donc c'est comme ça
D'accord.
que
Et
nous
donc
sommes venus en
votre père
Algérie.
l'a suivi?
Et mon père l'a suivi, oui, au bout d'un an en fait, le temps de faire
D'accord.
toutes les démarches nécessaires.
Et il n'a pas eu de problème particulier à sortir, d'accord.
Non, c'est-à-dire que c'était compliqué sur le moment parce que toutes les frontières étaient fermées, les aéroports ne fonctionnaient plus. Ensuite, ils ont accepté que ma mère parte, mais avec uniquement sa deuxième fille. Donc moi, ma sœur aînée qui avait 9 ans, en fait, avait passé l'âge
Eh ben dis donc,
à
ah
pouvoir
d'accord.
partir voilà, d'Iran. Donc bon, ça a été, je pense, un moment de stress quand même assez important. Mais finalement, bah, ça s'est rétabli peu de temps après et on a pu partir sans
Donc
trop
la
de.
maman et les deux sœurs,
Et
enfin les
les
deux
deux
filles,
sœurs,
d'accord.
voilà.
Et le papa donc vous a rejoint en Algérie.
C'est ça.
Je suppose qu'elle travaillait votre maman dans le cadre des relations internationales. Enfin non,
Je ne sais pas
non,
exactement, je ne saurais
d'accord.
pas vous
Ah
dire.
ouais.
Hein. Elle avait fait du FLE, donc
D'accord.
elle est partie voilà, enseigner à
D'accord.
l'étranger.
Et elle a eu donc un poste en Algérie
C'est ça, à
et
Sétif.
à Sétif. Et vous étiez resté.
On est resté 2 ans là-bas.
D'accord.
Donc c'est beaucoup moins long. Je ne saurais pas vous en parler parce que j'ai peu de souvenirs, honnêtement.
Vous étiez petite donc.
Oui. Oui,
D'accord.
puisque je suis partie de là-bas à l'âge de 6 ans. Donc, je me souviens qu'il y avait quand même une très bonne ambiance entre coopérants. Bon, moi, j'étais dans une école française, naturellement, ma sœur aussi. Et ma mère avait donc d'autres collègues coopérants. Et les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand on faisait des caravanes avec tous les amis, on allait à la plage,
D'accord, tous
voilà,
ensemble.
tous ensemble.
D'accord.
C'était super, voilà.
Ah, d'accord. Ah.
10-15 voitures, on se suivait les unes les autres. C'est
D'accord.
quelque chose que je n'ai jamais vécu en France, quoi. Je pense que ça se passe que dans des pays orientaux ou du Maghreb, peut-être
Nous
africains, je
étions
sais
alors au début des années 80, on va dire, enfin, au
pas.
milieu
Au milieu,
des
oui, au
années.
tout début des années 80, c'est ça,
Ouais,
ouais.
d'accord.
On est arrivé ensuite à Dunkerque en 84, il me semble.
D'accord. Et donc Dunkerque, donc enfin toute la famille.
Toute la famille est venue, dont ma grand-mère iranienne, donc qui
Ah
nous a
oui,
suivis
d'accord.
parce qu'elle était seule, enfin elle avait sa sœur là-bas sur place, mais son mari étant décédé,
D'accord.
elle nous a accompagnés à Dunkerque, des gens
D'accord.
d'Algérie pendant un an, et puis
D'accord.
voilà.
Ok. Et vous avez donc vécu à Dunkerque jusqu'à votre arrivée ici
Oui.
chez Orient, donc vous
Oui.
avez fait votre scolarité.
Oui, toute la primaire en fait à Dunkerque, une année de collège et ensuite je suis
D'accord.
arrivée à Orléans pour
D'accord.
faire ma cinquième.
D'accord. Alors, maintenant, on va parler d'Orléans. Donc, vous avez débarqué dans quel quartier, vous vous souvenez un peu?
Alors oui, bien sûr, puisque mon père, donc arrivé en France, c'était un petit peu compliqué pour lui de faire valoir ses diplômes de professeur d'anglais, etc. Donc il s'est mis à faire de la peinture et de la sculpture. Et quand lui est venu avant nous à Orléans pendant un an, et il avait trouvé un petit local rue de Bourgogne, au-dessus, c'était un atelier au-dessus d'une galerie d'exposition qui se trouve sur la place du Temple. Voilà.
Ça me dit quelque chose. D'accord.
Donc nous avons vécu un petit peu là-bas et ensuite on a trouvé une petite maison du côté du Belle-Neuve à Orléans. Voilà.
D'accord. Et les parents sont toujours dans le même
Et ils
coin?
sont toujours là-bas, ouais.
D'accord. Et donc vous, à un moment, vous avez bifurqué, donc vous êtes parti un peu de chez
Je suis
les
partie de chez
parents.
mes parents, oui, je suis partie de chez mes parents. Alors déjà, pour faire des études d'anglais pendant une année à Hastings, dans le sud de l'Angleterre. Un peu plus tard, je suis partie aussi pendant une année en Corse. Et puis, ensuite, j'ai déménagé ici à Orléans, toujours dans le centre-ville, en fait, quartier Notre-Dame de Recouvrance. Et puis quartier d'Illiers. Et maintenant, donc, je me suis acheté une maison à Saran,
D'accord.
qui est donc encore en construction, enfin pas en
En
construction, en rénovation, mais c'est quasiment
rénovation,
terminé là, je
d'accord.
suis.
Ah, vous y êtes depuis combien de temps alors là-dessus? Parce
Sur
qu'apparemment, les
la maison,
travaux, oui. Tout.
eh bien, depuis un an,
Ouais,
maintenant.
c'est bon. Ouais, d'accord. Donc là, vous commencez à voir un peu le bout
Oui,
du
oui,
tunnel.
oui.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu difficile quand on travaille en même temps d'assumer des travaux.
D'accord.
C'est
Ouais. Mais
fatigant.
vous passez par des artisans, tout ça,
Oui, je suis
ou...
passée enfin, je suis passée par des ouvriers en maçonnerie et en électricité pour faire le gros œuvre, dirons-nous. Et tout ce qui est finition, raffinement, délicatesse, n'est-ce pas? C'est mon père qui s'en
Ah
charge.
ouais, ah ouais, d'accord.
Voilà.
Ok.
Si bien qu'on approche vraiment de la perfection, mais il met beaucoup de temps à faire les choses,
Mais à faire les
forcément,
choses bien, je
avec soin.
suppose.
Voilà.
D'accord, je vois. D'accord. Ok, donc bon, je situe un petit peu mieux donc votre parcours, on va dire familial. Vous-même, vous avez des enfants?
Non.
Non, vous
J'en
n'avez
ai
pas
pas.
d'enfants. D'accord. Alors, votre métier, alors vous faites quoi?
Alors, je tends à devenir professionnelle dans la musique. Voilà.
D'accord.
Et je dis je tends à parce que de toute façon, on a toujours à apprendre et aussi parce que je n'ai pas le statut d'intermittent du spectacle. Parce que pour avoir ce statut, il faut faire un nombre de cachets. En un certain laps de temps et bon, on n'arrive pas forcément facilement à trouver des dates de concert. Sinon, ça fait à peu près 7 ans donc que j'ai arrêté mes études d'anglais et puis ensuite en restauration pour me mettre à la musique parce que c'est quelque chose qui m'a suivi aussi depuis que j'étais très petite. Mais bon, ayant des parents tous deux profs, on m'a toujours poussé un petit peu à faire des études plutôt que de me
D'accord,
lancer
mais
dans
vous
la
en avez
musique.
fait des études, vous m'avez dit, en Angleterre, vous avez été...
Oui, ben, des études d'anglais, hein, simplement. J'ai fait une
D'accord.
fac d'anglais ici à Orléans, voilà, au
D'accord.
niveau DUG.
D'accord. Et après, donc, vous
Et
avez arrêté
ensuite, j'ai arrêté
l'anglais.
ça. Je suis partie faire donc une année de mise à niveau en hôtellerie-restauration. Parce que je trouvais ça marrant. Enfin, voilà.
D'accord.
J'avais envie d'essayer.
D'accord.
Et ça m'a plu.
D'où la
Mais
Corse, donc,
d'où
c'était
la
un...
Corse, voilà.
D'accord.
D'où la Corse, ça m'a plu. Mais ensuite, en entreprise, j'ai vécu des moments plutôt difficiles, dirons-nous.
D'accord. Parce que
Oui.
vous avez travaillé
Oui, alors forcément, puisqu'on avait des stages à faire à la fin de
D'accord.
l'année scolaire pour pouvoir ensuite passer en première année de BTS. Et en fait, ce stage, je l'ai fait dans la brasserie Georges Blanc à Lyon, où il y avait en cuisine, donc où il y avait deux chefs de cuisine qui étaient absolument ignobles.
D'accord.
Voilà, c'est simple, j'étais la seule femme en cuisine
D'accord.
et chaque jour il faisait en sorte de me faire pleurer, mais il me disait clairement
D'accord.
qu'il voulait me voir pleurer à la fin de la journée. Donc
D'accord.
évidemment,
Mais c'était
je
de la
tenais bon.
pédagogie ou c'était de la méchanceté
Je pense qu'il y a cette espèce de mentalité chez certains, je ne sais pas, dans la cuisine, c'est ce besoin de pouvoir, de suprématie, sans doute des gens qui ne sont peut-être pas très, qui n'ont peut-être pas été très bien traités eux-mêmes, ou je préfère imaginer ça plutôt que ça vienne de leur fond
D'accord.
personnel. Voilà. Et bon, du coup, c'est vrai que ça m'a légèrement écœurée de tout ça, bon, parce qu'il y a eu plein d'autres choses, hein, je rentre pas dans les détails. Et ensuite, je suis repartie, donc à la fin de ce stage, faire un autre, dans un autre lieu en Corse, dans un semi-gastro qui s'appelait le Caveau du Marin, où là j'étais en service. Et par contre, je suis vraiment tombée avec des personnes extraordinaires. Mais je crois que c'est plus difficile finalement de tomber sur des personnes comme ça dans ce milieu-là que sur
D'accord.
le premier type de personnage que j'ai pu voir.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ça vous a l'expérience lyonnaise, on va dire, ça vous a un peu...
Ouais,
D'accord.
ça, bon, alors ça m'a permis quand même par la suite de trouver plein de petits boulots quand même, même ici à Orléans.
Ah, vous avez travaillé aussi à
Oui,
Orléans?
bah, dans la musique, on n'arrive pas à percer tout de suite. Donc il fallait bien que j'essaye d'arrondir un peu les fins de mois. Donc j'ai travaillé dans un restaurant qui se trouvait à côté des Antiquaires. En fait, c'était le restaurant gastronomique d'Orléans. Je me rappelle plus de son nom, c'était juste à côté, c'était le même patron. Voilà.
Vous étiez dans les cuisines, c'est ça?
Non, là j'étais toujours en service. Et puis ensuite j'ai fait pas mal de cuisine et service d'entreprise. Où là c'est encore une autre ambiance.
D'accord.
C'est peut-être plus sympa au niveau des horaires parce que c'est moins étendu.
C'est les entreprises qui font ça pour d'autres entreprises ou pas
Ce
aussi?
sont des entreprises, ben non, c'est-à-dire que dans une entreprise, ils vont avoir un self, et dans ce
D'accord.
self, il y a des
Ah, d'accord.
cuisiniers, des
D'accord.
personnes qui s'occupent
D'accord.
du service, et voilà.
Et donc là, vous avez arrêté ce domaine-là depuis quand alors, la restauration?
J'ai arrêté à 5 ans, peut-être à peu près.
D'accord.
Voilà.
Et donc depuis, c'est la musique. Alors
Voilà,
dites-moi un petit peu
principalement.
comment ça a commencé, le parcours.
Alors, donc comme je disais, depuis que j'ai 7 ou 8 ans, donc je fais de la musique. J'ai commencé comme beaucoup de musiciens par le solfège, en école de musique. Ensuite, j'ai démarré le piano et tout de suite, je voulais faire du chant. Donc, je me suis inscrite dans une classe de chant, de classe lyrique, en école de musique. Arrivée à Orléans, ça c'était à Dunkerque, arrivée à Orléans, je n'ai pas trouvé de classe de chant qui acceptait des enfants. Donc j'ai continué le piano et le solfège jusqu'au brevet
Ici, là, au conseil.
à Fleury-les-Aubrais, c'est
D'accord.
une succursale du conservatoire. Voilà. Et donc cela jusqu'au brevet, et ensuite j'ai enfin le brevet musical donc. Et ensuite je suis allée donc à 18 ans, j'ai fait le conservatoire à Orléans en chant classique, ce qui a été une expérience assez difficile aussi parce que vocalement je n'arrivais pas du tout à je n'arrivais pas du tout à donner en fait ce que le professeur attendait de moi, quoi. Simplement, c'est-à-dire que j'ai une voix qui est plutôt grave et il me demandait tout le temps de chanter dans les aigus, j'y arrivais pas, voilà. Donc ça a été un peu psychologiquement difficile à admettre parce que on reconnaît plus sa voix et sa voix c'est son être, donc on ne se reconnaît plus finalement. J'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans. Ensuite, donc, je suis partie en Corse, je suis allée dans une école là-bas où j'ai fait toujours un petit peu de lyrique. Je suis revenue, j'ai repris le conservatoire avec un nouveau professeur. Et en même temps, je suis allée dans une école de musique rue de Bourgogne. C'est une association qui s'appelle Musique et Équilibre, où j'ai suivi des cours de lyrique là-bas aussi et de jazz.
C'est pas au 104? Non.
108, oui, c'est
108.
Ça.
108, oui, c'est ça. Ah, oui, d'accord.
Voilà, donc ça pendant 1 an là-bas. Et à la fin de l'année, ma prof de chant jazz et variété, en fait, voulait arrêter de donner des cours là-bas. Et elle m'a proposé au directeur de l'école de musique, disons que j'avais le niveau pour pouvoir enseigner. Donc voilà, au bout d'un an, je me suis mise à enseigner à musique et équilibre. Jusqu'à la fin de l'année dernière, en fait. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai fait diverses formations, entre autres des formations de gospel à Tours. J'ai suivi aussi une école de musiques actuelles professionnelles à Paris, qui s'appelle l'école Atlas, où j'ai suivi un cursus d'une 20aine d'heures à peu près, donc on a aussi du solfège, de l'harmonie, du chant, je faisais aussi du chant jazz, j'ai fait du chant brésilien, du jazz brésilien. Et puis voilà, et petit à petit, finalement, je quittais le classique pour me diriger plutôt vers ce style de musique qui finalement était plus en accord avec ma voix.
Vous parlez de jazz,
ouais.
C'est ça? D'accord.
Voilà. Et bon, ce qui s'est passé, se passe. Ce qui devait arriver, arriva, puisque finalement, mes expériences en classique ont fait que j'ai forcé sur la voix, et donc j'ai eu un kyste sur les cordes vocales, donc il a fallu que je me fasse opérer.
D'accord.
Oui, c'est un petit peu tumultueux finalement, on n'imagine pas hein, que... que chanter puisse être difficile en fait.
Voilà, oui. D'accord. Ça, c'est il y a quelques temps. Enfin,
c'était, oui, bah, à peu près, il y a 5 ans à peu près aussi.
Ah, d'accord.
Voilà, donc ensuite, il a fallu suivre une rééducation. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué voilà, à me former un petit peu à gauche, à droite avec des professeurs différents, des chanteurs comme Monica Passos par exemple, une chanteuse brésilienne qui est assez reconnue et qui habite à Paris aujourd'hui, avec une jeune femme en jazz qui s'appelle Sonia Cadbero aussi, qui est originaire d'Orléans d'ailleurs. Voilà. Et puis de la guitare aussi que j'ai suivie, guitare brésilienne, avec un monsieur qui s'appelle Toninho Ramos, qui est un très très bon musicien aussi, guitariste.
D'accord. Donc vous avez une formation donc sur pas mal d'instruments finalement, enfin au moins piano plus guitare
et chant
et alors et surtout chant dans différents styles.
Oui, tout à
d'accord.
Fait.
Et donc vous avez travaillé un peu là-dedans, enfin travaillé au sens rudimentaire du terme. Vous avez gagné de l'argent en faisant ce
Oui. Alors j'en ai gagné évidemment pas suffisamment pour pouvoir en vivre toujours, malheureusement. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de concerts à l'époque où je faisais partie d'un groupe de musique brésilienne. J'ai fait ensuite partie d'un groupe qui s'appelle El Azacap, avec lequel je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui est un sextet vocal de chants traditionnels du monde.
D'accord.
Et ce groupe-là évolue vraiment, vraiment bien. Nous sommes 6 femmes, et toutes professionnelles, hein, finalement, et toutes professeures, en fait, de musique. Et donc, dans ce groupe-là, nous travaillons essentiellement a cappella. On utilise de temps en temps une guitare, une basse, On utilise aussi des percussions corporelles et des percussions traditionnelles. Voilà.
D'accord.
Et on a toute une mise en espace. C'est un vrai spectacle, quoi, qu'on propose avec des décors de scène, etc.
D'accord. Et donc avec écriture, composition, tout
Alors, en fait, comme on reprend des chants traditionnels du monde, ce sont des chants existants, mais que nous arrangeons nous-mêmes,
d'accord,
donc à notre manière. Et depuis peu, il y a un jeune homme qui s'appelle Florent Gâteau qui nous a composé deux morceaux personnels. Et moi-même, j'en ai apporté un aussi, là, pour le nouveau répertoire. Voilà. Donc, ça se fait petit à petit parce qu'on ne sait pas trop si on a envie de rester dans le style traditionnel, on ne peut pas apporter trop de compositions. Voilà. Après, on part vers autre chose, quoi.
D'accord. Et c'est un groupe qui est à Orléans ? D'accord.
C'est un groupe qui est à Orléans, oui.
Et quand vous donnez des concerts, alors c'est plutôt dans la région ou pas forcément?
Oui, 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 c'est dans la région aujourd'hui, en ce moment, je veux dire, parce que on n'a pas eu de contact en fait pour pouvoir jouer ailleurs pour le moment. C'est, si vous voulez, il y a vraiment deux métiers qui se complètent complètement dans le monde artistique musical, c'est les artistes eux-mêmes et les agents, les personnes qui essaient de promouvoir. Et tant qu'on n'a pas trouvé cet agent qui accepte de travailler avec nous, on est obligé de faire ce travail nous-mêmes. Or,
vous n'êtes pas professionnel de la com.
Voilà. Monter un spectacle, c'est déjà énorme comme investissement, c'est beaucoup de travail. Et de la même manière, trouver des dates de concert, il faudrait être tous les jours sur ordinateur, avec téléphone, etc., pour faire promouvoir un groupe. Et donc, pour le moment, comme on se débrouille toute seule, on est bien obligé de faire ce qu'on arrive à obtenir. Quoi.
D'accord, voilà. Ok. D'accord, bon, je vois mieux les choses. Et c'est la situation, j'ai l'impression, de pas mal d'artistes actuellement.
Bien sûr.
Ouais.
Oh, oui.
C'est la réforme là, à laquelle vous avez fait
l'intermittent du spectacle.
L'intermittent du spectacle date déjà d'une dizaine d'années, je crois, ou un petit peu moins.
La réforme.
Où il fallait en fait se prévaloir d'un certain nombre d'heures de travail effectif pour avoir le statut.
Il
y a eu plusieurs versions, mais en tout cas, je crois que la première date de 10 ans.
Ça, c'est possible.
De ce type-là.
En tout cas, il y a 2 ou 3 ans, il y avait de nouvelles réformes qui ont été pour endurcir en fait ce statut-là, puisque ça demande à avoir 42 cachets, 43 cachets en 10 mois et demi. Avant, on pouvait faire ça en un an. Maintenant, c'est en 10 mois et demi. Ce qui signifie avoir un concert déclaré par semaine. Et ce qui signifie, quand nous sommes 6, par exemple, dans un groupe, un cachet qui est au-delà des 1400 euros, à peu près. Puisque si on veut avoir le cachet minimum par personne, on est obligé de doubler la somme, puisque la moitié s'en va pour les charges, comme tout le monde, quoi, c'est une fiche de paye. Donc finalement, par exemple, sur 100 euros, si on demande une fiche de paye de 100 euros, on n'obtient que 50. Voilà. Donc, si on a envie d'en vivre, on est obligé d'en demander à peu près environ entre 70 et 100 euros par concert net.
Et par personne.
Et par personne.
Et ça, il y a des gens qui sont tentés plutôt de vous proposer des concerts qui vont payer plutôt...
De la main à la main, au black, oui, bien sûr.
D'accord, ça explique donc un peu ce statut. D'accord, très bien. Alors, nous allons parler d'autre chose maintenant, même si on a parlé du travail, on va dire. Et on va parler de loisirs. Et quand vous travaillez, là, vous vous organisez comment, là, quand vous êtes dans ce groupe? Est-ce qu'il y a des heures précises de travail? Est-ce que des jours ou comment vous vous organisez?
Oui, alors, en fait, il y a eu une évolution, puisque effectivement, pendant 3 ans, on s'est vu toutes les semaines, régulièrement. Et puis, on s'est... depuis 3 ans aussi, donner une semaine de travail intensif ce qu'on appelle ça du travail en résidence en fait. Donc on est toutes les 6 dans un lieu clos et on travaille à peu près 8 heures par jour quoi, sur le répertoire. Et comme maintenant vraiment le groupe évolue dans le bon sens du terme, on sent qu'on a davantage besoin de faire ce genre de travail en résidence plutôt que de se voir toutes les semaines. Donc je crois qu'on va faire 3 semaines de résidence dans l'année pour pouvoir faire un travail intensif. Et ensuite, on se verra de manière régulière, mais peut-être une fois par mois et un week-end complet par trimestre ou par mois. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a convenu de faire.
D'accord. Ça vous laisse pas mal de temps libre, entre guillemets. Vous occupez comment? Alors c'est en retravaillant des choses vous-même, en faisant autre chose.
Oui, alors comme je vous le disais, je n'en vis pas encore, donc il a fallu que je trouve d'autres travail à côté encore. Donc évidemment les cours de chant, les cours que je donnais aussi à la fac pour les étudiants étrangers. Donc j'animais un atelier de chansons françaises.
D'accord.
Et puis
à l'IDF, c'est ça?
Oui,
c'est ça.
Et puis donc comme ça ne suffisait pas, je me suis trouvé un travail en tant qu'auxiliaire de vie scolaire dans un lycée Saint-Paul, où j'accompagne des personnes handicapées en milieu scolaire.
D'accord.
Et là, depuis cette année, j'ai un 35 heures.
Ah d'accord, oui. Donc du coup, pas du tout de temps libre,
non.
Parce que vous cumulez quand même pas mal de choses, d'accord. Bon, d'accord, c'est assez chargé. Donc en plus donc, de votre travail en tant qu'auxiliaire de la vie scolaire, donc vous arrive de faire autre chose parallèlement, là, depuis les 35 heures ou...
Bah écoutez, j'ai mes 3 groupes de musique, donc Ella Zaka dont je vous parlais, j'ai un quartet de jazz manouche, avec lequel on fait plutôt des compositions, et puis je dirige aussi un petit chœur de gospel, un groupe vocal de gospel.
Oh, d'accord.
Je crois que...
C'est énorme, mais parce que vous n'aviez pas du tout parlé de cet autre aspect, donc vous avez une vie très très chargée.
Oui.
D'accord. Et là, donc, du coup, les groupes, c'est plus le soir, c'est...
Oui, alors, ça a été ça aussi, plutôt le soir. Et puis, en fait, là, depuis cette année, on est obligé de trouver des horaires de toute façon communs, donc on ne se donne pas le choix, quoi. Soit c'est le soir, soit c'est les week-ends, donc voilà.
Ok. Et donc, quand vous ne travaillez pas, ça doit quand même vous arriver.
Je dors.
D'accord.
Parce que je suis très fatiguée. Non, honnêtement.
Pas de transition.
C'est vrai que j'ai très envie, là, petit à petit, de faire du sport. Je sens que ça me manque, mais j'arrive pas à passer le cap de la fatigue, en fait. Mais si je pouvais, j'essaierais d'aller régulièrement à la piscine, par exemple. Aller me promener. Sinon, ce que j'adore évidemment faire, et je crois que je pourrais jamais m'en passer, c'est voyager. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut prendre le temps de le faire, et puis ça a un coût, et puis tout ça, quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc tout ça, ça reste en fait des projets.
Ça m'arrive quand même de voyager.
D'accord. Non, mais le sport, par exemple, est-ce que vous arrive quand même d'en faire un petit peu ou ça vous, ça
Non,
vous
honnêtement,
pas...
non. Là, en dehors de ça, en dehors de mon travail, finalement, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose. Peut-être si aller voir des concerts de temps en temps, mais ça reste encore dans la musique, mais parce que j'aime beaucoup ça. Et puis le cinéma, j'y vais très rarement, mais j'aime ça. Ensuite, si sortir de temps en temps avec des amis, quoi, aller boire un coup, manger quelque part.
D'accord.
Côté social.
Ok, très bien. Ok. Vous pratiquez un peu la télé, tout ça, ou...
Je ne suis pas une férue de la télévision. En fait, la télévision, je la regarde juste peut-être pour ne pas être seule.
pour
certains
s'endormir aussi.
moments.
C'est efficace pour ça.
Mais moi, j'arrive pas à m'endormir devant la télé. Mais c'est vrai que j'y trouve pas un attrait extraordinaire, si ce n'est que pour vraiment penser à rien. Mmh. Voilà.
D'accord. C'est fait pour ça, je crois.
Oui, sans doute. Mais bon, il y a des choses, on peut trouver des choses intéressantes, quoi.
Tout à fait. D'accord. Et la radio ?
La radio, alors j'écoute TSF Jazz dans la voiture.
D'accord. C'est... Ok, d'accord. C'est clair. Nous allons parler de la vie, on va dire, plus locale sur Orient. Est-ce que vous suivez un petit peu les fêtes locales, du type fête de Jeanne d'Arc, par exemple ?
Alors, j'ai effectivement même participé aux fêtes de Jeanne d'Arc quand j'étais au collège, puisque je faisais partie du conseil municipal des jeunes.
D'accord.
Et donc, nous avons défilé pour les fêtes de Jeanne d'Arc, voilà. Mais en dehors de ça...
Donc vous faites partie des 50% des Orléanais qui ont défilé.
Tout à fait. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, honnêtement.
Je ne sais pas.
En tout cas, je n'étais pas réellement consciente de ce qu'apportait cette animation à l'époque. J'étais trop jeune. Cela dit, je n'aime pas tellement... D'accord. Ce genre de manifestation, hein. Franchement...
Ça vous arrive quand même d'aller regarder...
J'y vais plus du tout. Ouais. Ah non, j'y vais plus du tout. Là, cette année, on m'a vraiment forcé la main pour, le vendredi soir, aller voir les... comment est-ce qu'on appelle ça ? L'embrasement de la cathédrale. Mm-hmm. Et donc, j'y suis allée, et quand j'ai vu...
Le monde
Oui, la population qu'il y avait, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Pourtant, j'ai pas forcément peur de la foule, hein, je trouvais que ça faisait brasser trop de choses. Mmh. Et en plus, une population qui n'est pas forcément toujours là uniquement pour voir les choses, mais aussi pour faire des bêtises. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup depuis 4 ans, parce que c'est une fois tous les 2 ans, c'est le Festival de Loire qui a lieu. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa.
D'accord.
Ça change. Le Festival de Jazz aussi. Mm-hmm. Parce que, peut-être parce que c'est de la musique, une fois de plus, je sais pas, et que ça m'attire. Mais le Festival de Jazz permet aussi d'avoir des animations dans tout le quartier Bourgogne, dans le Campo Santo, et je trouve ça vraiment sympa. Mmh. Après, ce qui est de la fête de la musique, c'est pas trop mon truc non plus.
Mmh.
Bon.
Pourquoi ? C'est pas.
Parce que je trouve que c'est pareil, on n'apprécie pas, il y a trop de choses. Dans des lieux trop délimités, et en fait tout se brouille, on n'arrive plus à comprendre, à voir, à prendre le temps de faire les choses. C'est moi qui dis ça, tout ce que je fais.
Je comprends tout à fait ça. Et donc le festival de jazz, c'est plutôt c'est bien. Alors qu'est-ce qui vous, au-delà de l'aspect musique évidemment, qu'est-ce que vous trouvez de particulièrement réussi ou intéressant là-dedans ?
Eh ben, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, en fait, le festival de jazz se cantonnait au Campo Santo et c'était payant. Donc, pour pouvoir y accéder, il fallait avoir quand même de quoi payer l'entrée. Or, depuis 2 ou 3 ans, ça s'est étendu en fait au quartier Bourgogne et il y a une scène. Quartier Bourgogne, à côté du temple, il y a une autre scène qui se trouve sur la place de la République, et puis des bars qui font venir des groupes, mais à des horaires différents, ce qui nous permet vraiment de pouvoir passer de l'un à l'autre, ce qui donne la possibilité à toute la population d'aller voir ce qui se passe, de découvrir de nouvelles musiques sans avoir besoin de payer. Et surtout, il fait beau, parce que c'est au mois de juin, les terrasses sont toutes sorties, ça donne une vie à la ville.
Voilà. Et vous oubliez le jardin de l'évêché.
Et le jardin de l'évêché, c'est vrai.
Là aussi, c'est gratuit.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment bien.
D'accord. Et alors, vous m'avez aussi parlé Festival de Loire. Alors qu'est-ce que vous trouvez intéressant ?
Eh bien, c'est un peu le même côté hein, des choses, hein, la possibilité de découvrir gratuitement. Et puis en plus de ça, c'est le spectacle de rue que je trouve vraiment chouette, quoi, de voir des personnes sur échasse, des gens qui font du théâtre. C'est vraiment le côté, en fait.
L'animation culturelle qui accompagne.
Voilà. Alors après, je ne suis pas une grande fan non plus des stands de nourriture ou de. ou de vêtements de loire, mais bon, c'est voilà, ça fait une animation, quoi. C'est
D'accord.
plutôt dans ce sens-là.
Ok. Donc j'ai vu que même si vous habitez actuellement à Saran, quand même, vous êtes un peu du centre-ville en fait.
Oui,
Vous,
oui.
donc vous, comment vous avez trouvé l'embellissement, on va dire, du centre-ville? Vous trouvez que c'est réussi,
Ah
que
oui.
ça change qu'est-ce que.
Oui. Alors, autant le tramway, moi je m'en suis jamais servi, donc c'est vrai que je suis un peu comme tout le monde, quoi. Quand il y a trop de travaux, ça me fatigue au bout d'un moment parce que ça change sans arrêt, on ne sait plus par où passer. Mais sinon, par rapport aux travaux qui ont été faits toujours dans le quartier Bourgogne principalement, je trouve que ça a vraiment arrangé les choses, ça a embelli les quartiers et j'ai. Enfin, on me le dit, moi j'ai jamais eu ce sentiment-là, mais il paraît que ça l'a purifié aussi peut-être un petit peu au niveau de. Je devrais pas dire ça parce que c'est pas très correct quand même. Au niveau de la population, j'allais dire. C'est-à-dire qu'avant, il paraît que le quartier Bourgogne c'était un petit peu mal famé. Bon, je l'ai jamais ressenti, hein, honnêtement. Mais là, je ressens encore moins le problème. Et puis, ces personnes qui trouvaient qu'à l'époque c'était comme ça trouvent que maintenant ça ne l'est plus du tout. Donc voilà, je fais que répéter les choses.
D'accord. OK.
Mais je retire le terme purification, parce que c'est vraiment,
Ouais,
très, vraiment une expression horrible, c'est une très dictature là.
c'est ce qu'on entend quelquefois. Alors on ne le dit pas comme ça, parce que maintenant on change pas mal les termes, mais on ne change pas la réalité de ce qui est voulu en fait. Vous vous intéressez un petit peu à la politique locale?
Non.
Non, pas du tout, ça c'est
Ouais,
pas.
honnêtement, j'ai des idées politiques évidemment que je vais défendre, mais je ne suis pas la politique en
D'accord,
général. Ça
d'accord.
me. Je sais pas, c'est très loin de moi.
D'accord.
Je suis quelqu'un de plutôt sensible et qui parle avec le cœur, et puis c'est plutôt tout ce qui est psychologique qui m'intéresse, quoi. Après, je trouve qu'on rentre dans des sphères qui me sont trop éloignées en fait. Pouvoir
D'accord.
suivre un débat.
D'accord. Et les médias locaux, ça.
Oui, bah par exemple France Bleu, j'ai été en contact pas mal avec eux, France Bleu Orléans, donc la radio. D'ailleurs, normalement, ils vont nous faire jouer avec le groupe de jazz manouche d'Aïcha, donc cette année pour le fête fête de la musique, voilà. Il y avait Orléans TV aussi pendant un temps qui était. Bon, je la regarde pas souvent, mais parfois oui, je m'arrête dessus pour regarder un petit peu ce qui se passe. Mais ça ne fonctionne plus visiblement sans stand-by là pour le moment. Après, La République du Centre aussi, oui, je la lis de temps en temps, mais plutôt quand je m'assois dans un café, quoi. Je l'achète pas.
Quand c'est gratuit,
Oui, toujours, hein.
à portée de
Mais
main, et
oui,
qu'en plus vous n'avez
mais.
rien d'autre à
Exactement,
faire.
parce que c'est ça la culture aussi, et puis on va pas payer pour savoir ce qui se passe dans le monde tout le temps, quoi, je veux dire, enfin.
D'accord.
Je sais pas.
FR3, non? C'est pas. Vous n'avez pas parlé de
France
FR3.
3, si, je regarde effectivement
C'est France 3,
le journal de temps en temps, oui, France 3.
D'accord. Ok. Alors, puisqu'on est à Orléans quand même, est-ce que vous avez entendu parler d'histoires un peu bizarres qui se déroulent à Orléans?
Non.
La rumeur d'Orléans, ça ne vous dit
La
rien?
rumeur d'Orléans,
Non,
non.
ça ne vous dit
Du
rien.
tout. Moi, j'ai entendu
D'accord.
parler des chiens d'Orléans. C'est comme ça qu'on appelle les Orléanais en général. Mais
Ah oui, comment vous expliquez cette expression?
Alors, je ne connais pas l'origine de cette expression, mais d'après ce que j'ai compris, les Orléanais pure souche sont des personnes extrêmement froides et désagréables et un peu bourgeoises.
D'accord.
Voilà.
D'accord. De
D'où
l'expression,
l'expression, sans
d'accord.
doute, oui. Mais alors, une rumeur, non.
Non, d'accord. Pas d'histoire un peu bizarre sur certains quartiers, sur.
Ah, des histoires sur les quartiers comme la
Enfin, sur
source
le
ou
quartier,
l'Argonne
sur. Oui, ou. Enfin, des choses qui. Un peu bizarres, quoi, qui interpellent,
comme des
quoi.
trafics de drogue ou
Je sais pas,
je
ça
sais
peut être.
pas.
Non,
Non, du
non.
racisme peut-être.
Je sais pas, non,
Non, bah
non,
écoutez,
non.
franchement, ce genre de choses, je pense qu'il y en a dans toutes les villes. Moi-même, quand j'étais chez mes parents au Balneuf, donc c'est juste à côté de l'Argonne, on n'a jamais rien vu d'incroyable dans ce quartier, quoi. Enfin, il ne s'est jamais rien passé. Maintenant, il se passe sans doute peut-être des choses quand même, puisqu'on en parle, mais.
D'accord. Le fait que Orléans soit à côté de Paris. C'est à votre avis, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose pour Orléans?
Pour la ville elle-même?
Pour la ville, pour les gens qui habitent.
À mon esprit, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir Paris à côté, toujours pour pouvoir. C'est quand même la capitale de France, il y a des monuments extraordinaires, des quartiers de Paris qui sont magnifiques aussi, pour la culture, pour s'informer, pour. Ne serait-ce que pour visiter une fois, c'est quand même relativement intéressant pour les gens d'avoir Paris à côté, enfin pour les gens d'Orléans, pour y aller au moins une fois dans sa vie, quoi. Il y a des gens qui ne pourront jamais le faire, même d'ici d'ailleurs, il y en a qui ne pourront jamais.
Et le fait que, enfin, je veux dire, ça ne représente pas du tout d'inconvénient selon vous. Est-ce que ça jetterait
Je
pas,
sais
est-ce que ça
pas.
transformerait pas la ville en cité
Oui,
dortoir,
oui, c'est ce qu'on dit souvent.
si vous n'avez pas ce sentiment?
Orléans n'est pas une ville forcément extrêmement animée. Alors, est-ce que c'est parce que Paris est à côté? Je sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question.
D'accord. Donc j'avais une question sur la réputation des Orléans, mais vous avez répondu avant. Est-ce qu'il y a une façon propre de parler à Orléans? Parce que les gens ont une manière à eux.
Je n'avais pas remarqué,
Non?
mais peut-être parce que je suis entourée toujours de personnes d'origines différentes, et puis
D'accord.
voilà, je ne sais pas.
Donc vous ne pouvez pas non plus
Je ne saurais pas. Non.
répondre à l'autre question qui suit, est-ce qu'on y parle bien dans cette ville? Est-ce que vous trouvez que la manière de s'exprimer, enfin généralement, est bien, entre guillemets?
C'est une question assez curieuse quand même. Je pense que ça vient de la personnalité des gens qui nous entourent, qu'on côtoie, quoi. Enfin, parce que oui, en général, les gens que je rencontre parlent bien. Mais il y a. Alors, est-ce que mal parler dans le sens où des problèmes de grammaire, des
Je sais
problèmes
pas.
d'éducation, des problèmes d'origine qui font que les gens. Ne vivent pas forcément les bonnes syntaxes, enfin il y a des tas de choses à être prises en compte, et forcément qu'il y a tout ça. À Orléans, forcément qu'il y a toute cette diversité, quoi.
D'accord.
Mais je crois qu'il y a ça
Donc la
maintenant
question,
partout
elle ne vous
aussi.
plaît pas. Je le
Non,
note.
non, non, non,
Oui,
c'est
non,
pas qu'elle
mais
ne me
non,
plaise pas,
non.
c'est que c'est tellement difficile à répondre à cette question, je trouve. En fait, je crois que ça vient plutôt de la personnalité que l'on a et de la capacité à s'entourer des gens qu'on aime avoir autour de nous, quoi. C'est vrai que personnellement, je me sens moins à l'aise avec des personnes qui ont un vocabulaire un peu châtié, voilà, parce que je trouve pas ça joli, simplement. Donc, je vais avoir peut-être moins d'amis qui utilisent ce genre de vocabulaire. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises en soi, mais c'est des personnes qui m'attireront moins. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Les jeunes, ils ont une manière particulière de s'exprimer, peut-être. Comment vous trouvez ?
Alors, à l'époque où j'étais moi-même étudiante, j'ai pas remarqué de réelles différences dans les écoles dans lesquelles j'étais. En revanche, ayant habité à l'Argonne, et j'ai pris le bus évidemment des centaines de fois, et dans ce bus il y a effectivement le langage des quartiers où les mecs parlent un peu comme ça, les filles aussi, et j'ai ri
d'accord.
Mais parce que justement dans les quartiers les gens n'ont pas peur d'utiliser des mots complètement inexistant du dictionnaire, mais qui donne l'image exacte de ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Et je trouve ça fabuleux.
Une certaine liberté lexicale,
oui. Et oui. Et c'est très très drôle, quoi. Et puis en plus, il y a un certain humour aussi, l'humour des quartiers. C'est-à-dire que évidemment, après, on peut dire aussi qu'il y a de la violence dans les quartiers, mais j'ai vécu aussi des choses très amusantes. Par contre, depuis que je travaille là au lycée Saint-Paul, je trouve que la jeunesse est devient de plus en plus irrespectueuse, quoi. Alors, c'est au sein de ce lycée-là. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais vraiment, je trouve que les jeunes qui sont... parce que c'est ouvert, il y a collège, lycée professionnel, lycée général, d'enseignement général, et BTS. Donc c'est vraiment complet, et moi, les personnes que j'accompagne sont en BTS, et je trouve que même là, il y a une irrespectuosité, c'est ça, des professeurs qui se fait remarquer, mais c'est terrible.
Alors, c'est un établissement privé.
Voilà.
Et c'est où en fait ?
Ça se trouve du côté de la place Saint-Aignan, en centre-ville aussi, entre la Loire et la rue Bourgogne. Alors, est-ce que c'est parce que les gens payent une certaine somme et donc ils se sentent maîtres de la situation et donc avoir l'autorité de contrecarrer un professeur, je sais pas, mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à admettre.
Moi, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, parce que généralement ça un établissement privé n'a pas forcément cette réputation là en fait. Et donc là le respect dont vous parlez, ça se manifeste comment?
Ça se manifeste, c'est-à-dire que il y a des élèves qui vont traiter directement en regardant le prof dans les yeux, d'homosexuel ou de termes que je n'oserais pas prononcer là. Et d'une part, ça se fait évidemment pas. Après, ils se balancent des ballons, des choses comme ça dans les classes, facilement, des chewing-gums qui se collent même dans les cheveux les uns des autres.
D'accord.
C'est terrible. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le professeur, en fait, dans cette école, n'est même pas respecté par les supérieurs, qui, eux, demandent aux profs de toujours arrondir les angles, sans doute parce que justement, ils ont à l'esprit que les gens ont payé aussi pour ça. Et donc, ils ne défendent plus le prof. Donc, le prof n'est plus... Quel est le terme qu'on utilise?
Appuyé, soutenu.
Il n'est plus appuyé, soutenu par... les directeurs, et il arrive très souvent aussi qu'il y ait des parents d'élèves qui ont été collés ou renvoyés, qui viennent et qui refusent catégoriquement le renvoi de leur enfant, quoi. Alors que, à mon esprit, il faudrait vraiment... L'école fait partie de l'éducation, tout comme l'éducation familiale, quoi. Donc il faudrait, je pense, que les parents se mettent d'accord avec les professeurs. Je ne dis pas que tous les profs sont corrects, attention, hein, mais bon.
D'accord. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Non, mais ça, vous m'avez répondu, en fait. Mais si, quand même, je la repose la question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler de certaines personnes, quelles qu'elles soient? Est-ce qu'il y a des manières de parler qui...
Moi, évidemment, les accents ne me dérangent pas. Après, comme je disais, c'est vrai que le côté un peu châtié qu'on entend beaucoup là, au lycée, chez les jeunes, en fait, ça me déprime un peu, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on n'évolue pas, en fait, et qu'on régresse, simplement. Et que...
Comment vous pouvez qualifier cette manière de parler là, vous parlez de châtier,
c'est des termes vulgaires, grossiers, voilà, et puis souvent aussi en rapport avec le sexe, et puis dans les tenues aussi des jeunes, c'est terrible, parce que j'ai travaillé aussi pendant un temps dans une école primaire et maternelle en tant que d'aide aux devoirs, en tant qu'aide aux devoirs. Et dès la primaire, il y a des jeunes filles de 8 ans qui portent des talons ou des barésilles. Enfin, ça me choque, quoi, complètement. Voilà. Et forcément, ces enfants-là vont aussi vers un langage grossier, quoi.
D'accord.
Plus que familier. Voilà. Et je trouve vraiment ça triste, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus et que le côté correct de la chose se perd.
D'accord. On entend parler d'autres langues sur Orléans. C'est quelle langue on entend et où?
On entend beaucoup de langues du Maghreb. Après, il y a un peu d'Africains, d'Afrique noire. On entend le turc aussi, souvent. Et de plus en plus, on entend des Japonais.
Ah oui?
Ouais. C'est, alors, sans doute par ville d'IDF.
Pas d'aliments de quartier.
Si, parce que heureusement que les Africains et puis les Maghrébins et les Turcs ont le droit de marcher en centre-ville aussi.
Au centre-ville.
Voilà, voilà, ouais. Plutôt au centre-ville, ouais. Parce que après, c'est vrai que je ne me promène pas dans les quartiers, dans les autres quartiers, quoi.
D'accord. Alors, vous pratiquez, à part le français, quelle autre langue?
Le persan.
Vous le parlez?
Je le parle couramment, mais pas de manière très évoluée. C'est-à-dire que je suis partie de là-bas à l'âge de 4 ans, donc je parlais comme un enfant de 4 ans, à peu près. Mais je me débrouille.
Donc c'est plus de la communication, on va dire, de la vie quotidienne, peut-être?
Voilà, c'est ça.
Avec votre père?
Avec mon père, moins, parce qu'on parlait beaucoup quand ma grand-mère était là, mais maintenant elle est décédée. Donc depuis, on parle plus tellement persan avec mon père. Quand sa famille, c'est-à-dire qu'il a une cousine et un cousin qui vivent en France, viennent, on discute évidemment persan avec eux. Il y a une petite communauté iranienne aussi à Orléans. Donc là, oui, on parle persan. Après, je parle l'anglais aussi, de manière... je pense que j'étais quasi bilingue quand même. Je me débrouillais plutôt bien en anglais. Mais bon, forcément, à ne pas le pratiquer, on perd. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut, tout ça.
D'accord.
Et j'avais fait un peu d'italien aussi, de l'allemand, mais bon.
C'est plus scolaire.
Ouais.
D'accord. Et avec votre sœur, vous parlez jamais persan?
Ça, si, arrive, ça arrive, quand on n'a pas envie que les personnes nous comprennent.
D'accord.
Souvent.
C'est l'une des premières fonctions
du langage. C'est ça, oui, mais avec ma maman aussi. Hein. C'est vrai qu'elle parle persan aussi, donc...
Ah oui,
Quand
elle
on est dans la
parle,
rue,
elle parle. Ah oui, d'accord. D'accord.
et qu'on a envie de se dire des choses que les gens, qu'on n'a pas envie que les gens comprennent, voilà. On en profite, c'est quand même super.
Ah oui. C'est pas donné à tout le monde.
Non.
D'accord, très bien. À propos de la communauté iranienne, enfin, j'aurais une question à poser après, mais enfin, qui n'a rien à voir avec tout
oui.
ça, donc je la poserai après. Je finis par une dernière question un peu bizarre, mais parce qu'il y a eu déjà une première enquête qui a été faite il y a 40 ans sur Orient, et donc nous c'est la deuxième enquête en fait, et donc nous avons gardé quelques-unes des questions, parmi lesquelles celle-là. Comment est-ce que vous feriez une omelette? Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner une recette?
C'est pour voir ma logique d'étape ou
Je ne sais pas, j'ai jamais su à quoi ça servait cette question.
Alors, pour faire une omelette, donc nous avons besoin de récipients également, d'une poêle. Et en général, je casse, bon, personnellement, pour faire une omelette, je prendrai 2 ou 3 œufs pour une personne. Mm-hmm. Donc, je casserai les coquilles sur le bord. Il faut les détails ou pas?
Oui, bien sûr. Oui.
Sur le bord d'un saladier. Mm-hmm. Je verserai le contenu de la coquille dans le saladier. Je jetterai les coquilles, évidemment. Je mettrai du sel, du poivre, peut-être un brin de persil.
Parce que ça donne une certaine épaisseur. Enfin,
le persil?
Oui, une certaine texture.
C'est pour le goût. Ça donne du goût aussi. Mmh. Et puis, ce que j'aime faire, moi, c'est mettre une cuillerée de fromage blanc. Pour la rendre plus voluptueuse, quoi.
D'accord.
Voilà.
Mmh.
Et puis, je mélangerai cette omelette à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette, peu importe ce que je trouve sous la main. Et puis, je ferai ensuite couler de l'huile d'olive. Oui, aujourd'hui, c'est ce que je ferai, pas de beurre. Mmh. De l'huile d'olive, plutôt.
D'accord.
Dans le fond d'une poêle, ou avec une poêle anti-adhésive, sans huile
sans
du tout,
grasse,
sans matière grasse.
Mmh.
Je verserai ensuite le liquide dans la poêle une fois qu'elle est un petit peu chaude. Et...
Un petit peu chaude ou très chaude?
Bon, j'attends pas, moi.
D'accord.
C'est-à-dire okay. que je ne pose pas la main dessus pour savoir si elle est très chaude ou pas.
D'accord.
Mais j'attends pas, enfin, je réalise pas si ça saisit tout de suite l'omelette, je ne pense pas, au fait. Et ensuite, c'est là que je n'ai jamais su terminer les omelettes. Est-ce qu'il faut faire des petits trous dedans pour que le liquide
ou pas.
Puisse cuire ou pas Ou est-ce qu'il faudrait couvrir ou est-ce qu'il faudrait laisser comme ça et cuire un petit feu pour que ça prenne Voilà, je n'ai pas eu
pas.
Non. J'ai toujours pas su ce qu'il fallait faire.
Ok, très bien. Merci beaucoup. On a fini.
Merci
ça,
à vous.
En plus, ça a l'air d'avoir fonctionné.